conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits ou bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs ou bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous parlons aujourd'hui de l'impact économique de la construction du pont route Kinshasa-Brazzaville et du port de Banana. Vous savez, en RDC, c'est depuis le mois de mars de l'année dernière que le pays, la RDC et les Émirats Arabes Unis ont signé à travers la firme Dubai Port World la convention relative à la construction du port en eau profonde à Banana au Congo central. Par ailleurs, au mois d'août 2020 vont débuter les travaux des constructions du pont route rail entre Brazzaville et Kinshasa, deux villes et capitales les plus rapprochées du monde. Travaux financés par la Banque africaine de développement. Quel est l'impact économique, quel sera l'impact économique de la matérialisation de ces deux projets? On en parle dans cette émission avec notre invité Al Kitenge, qui est stratège et analyste économique. Al Kitenge, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, cette question de la construction du pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville a fait couler beaucoup d'encre. On a suivi beaucoup de notables du Congo central étaient opposés à ce projet. D'après ce projet, c'est suicidaire par rapport à la province et au pays. Alors, d'après vous, quels sont les enjeux derrière la construction de ces deux ports?
Vous posez deux questions en une, mais je vais commencer par celle qui nous intéresse le plus, celle qui est sur notre territoire, en l'occurrence le port en eau profonde de Banana,
oui,
qui est en fait un ouvrage d'intérêt stratégique qu'il eût fallu que nous construisions depuis de longues années, que nous n'avons pas pu construire simplement parce que nous sommes une nation corrompue. Parce que, tout compte fait, il ne s'agit pas là d'un port qui serait financé par de l'argent congolais, c'est un port autonome qui devrait être simplement financé par des partenaires. C'est la convention. Il se fait malheureusement que 15 ans, 20 ans durant, on n'a toujours pas fait, simplement parce que nous n'avons pas été capables de passer viablement les marchés. Vous parlez des Deep World, ok? J'ai juste envie de vous dire aussi que c'est un contrat complètement illégal. Allez regarder qui sont dans Deep World. C'est des choses simplement inacceptables. J'ai envie de dire, si nous désirons le faire, et là j'en appelle à toute la force politique et la force citoyenne du Congo central et de la République, à pouvoir faire pression sur les politiques pour une fois qu'ils deviennent des personnes honnêtes et intègres et sérieuses.
Alors pourquoi vous dites que ce contrat-là est complètement illégal?
Mais vous savez, pour passer un contrat de ce type-là, on fait ce qu'on appelle un appel d'offres international.
Bien sûr.
On fait une sélection dans les bonnes conditions et en ce moment-là, on s'assure que les conditions matérielles, techniques et financières sont les meilleures, mais également au profit de la République démocratique du Congo et pas des individus. Et je vous invite encore une fois à aller regarder ce qu'il y a dans
les contrats. C'est quoi la passation des grises d'agrès
oui, et c'est des choses complètement inacceptables. Oui. Les unes après les autres ont empêché justement qu'on en arrive là. Je voudrais simplement vous rappeler que ce n'est pas le premier contrat que nous signons. C'est peut-être le troisième ou le quatrième. Mais moi, j'en appelle encore une fois aux autorités publiques en disant faites un appel d'offres, même restreint. Appelez les trois, quatre grands premiers ou derniers plutôt opérateurs qui se sont manifestés. Il y a des Français, il y a des Coréens, il y a des gens de Dubaï.
Deep World. Ça veut dire qu'il y a eu de la corruption, il y a eu des commissions.
Je ne veux pas aller dans les détails. Je ne veux pas aller dans les détails. J'invite simplement les Congolais à lire ce qu'il y a dans les textes et ils comprendront tous de quoi il s'agit. Mais je voudrais simplement dire que aujourd'hui, il est important et le chef de l'État l'a dit. Il ne va pas signer la convention de construction de la route routrail du pont routrail avant de commencer à construire le port en eau profonde de Banana. En fait, il a parlé à un homme politique. Il n'a pas dit qu'on va retarder ou qu'on va stopper le projet pont routrail. Il faut être en mesure de comprendre ce qu'il dit. Il dit que nous n'allons pas signer avant de commencer. En fait, je crois qu'il s'engage, j'espère beaucoup qu'il s'engage à repasser en bonne et due forme les appels d'offres de manière normale et de manière restreinte pour que nous soyons en mesure de sélectionner le meilleur opérateur qui va développer ce port. Et il ne s'agit pas seulement du port en eau profonde. Il s'agit du port, de la route et du rail qui ramène jusque à Kinshasa. Et donc, il faudrait bien qu'on arrête de discuter des petites choses. Nous sommes un grand pays et pour faire tous ces ouvrages, on n'a pas besoin de sortir un seul dollar. On a juste besoin de passer des marchés et de signer des conventions transparentes. Le monde entier fonctionne comme ça. Le port en eau profonde de Pointe-Noire que nous envions, dont nous avons peur, est un port simplement autonome. Il appartient à des tiers pendant une vingtaine d'années et il sera cédé.
C'est pas l'État congolais.
Non, pas du tout. C'est des tiers. C'est
d'accord.
Le port de Brazzaville, de Pointe-Noire, c'est la même chose. Le port d'Abidjan, c'est la même chose. Le port de Lomé, c'est la même chose. Et beaucoup de ports européens que vous connaissez de renom.
Et pourquoi les notables du Congo central s'opposent à...
L'ignorance frappe beaucoup de gens et des fois la politique trouble l'esprit des gens parce que malheureusement la politique cohabite avec le mensonge.
On dit que on laisse construire ces ponts, tous les navires vont commencer à accoster de l'autre côté.
Jusqu'à présent, je n'ai parlé que du port en eau profonde de Banana. Et j'insiste encore une fois que c'est quelque chose qui est à notre portée, que nous devons faire, que nous ne faisons pas par incompétence collective, tout simplement. Et donc, il ne faut pas chercher des prétextes sur ce port en eau profonde pour aller justifier notre incapacité à pouvoir le faire. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire, si ce n'est les intérêts.
Et c'est depuis plus de 150 ans qu'on parle de ce projet-là.
Encore une fois, vous venez de le dire de manière encore claire, que nous avons simplement été incapables. Pendant que nous n'avons pas pu le faire, ils ont fait celui de Pointe-Noire, ils l'ont modernisé, ils ont modernisé celui d'Abidjan, ils ont modernisé celui de Durban, ils ont modernisé celui de Lomé. Et donc, encore une fois, nous devons être responsables de nous-mêmes. Et donc, le fait d'être en retard sur la construction du port en eau profonde de Banana n'a pas de responsabilité externe. Maintenant, regardons le lien avec le pont route rail Brazzaville-Kinshasa. Cet ouvrage n'est pas un ouvrage binational, c'est un ouvrage transnational. Il part de Tripoli à Cape Town. C'est ça l'objectif. C'est de créer cette économie africaine dont on a besoin, dont on parle tant. Lorsqu'on regarde les deux économies d'Afrique, celle du Nord et celle du Sud, le trou noir sur la RDC, c'est inacceptable. On ne peut pas continuer à être celui qui manque au rendez-vous pour l'émergence d'une économie africaine qui se développe.
Et pourtant, d'après les informations, le port des Banana nous donnerait donc nous mettrait en contact pour des échanges économiques avec l'Afrique de l'Ouest.
Le port de Banana est un centre stratégique du corridor et il est important qu'on le fasse. Et personne n'en discute sauf notre incapacité à le faire. Simplement pour des raisons, malheureusement, j'ai envie de dire, de moralité politique et de moralité d'affaires. Et je crois simplement que nous pouvons changer ça et il est temps de changer. J'entends, moi, le président de la République parler tout le temps de l'intégrité politique, de la lutte contre la corruption.
Oui.
Et je suppose en passant qu'il va passer aux actes en posant cet acte de gestion transparente qui est extrêmement importante pour que cet ouvrage arrête de faire couler de l'encre pour rien. Il est important qu'on passe aux choses sérieuses. Maintenant, je voudrais parler de cet ouvrage de Pont-Routrail.
Kinshasa-Brazzaville.
Nous sommes signataires de la convention sur la zone de libre-échange africaine. Mais enfin, on ne peut pas être incohérent. On ne peut pas signer une chose et faire le contraire.
Oui.
À un moment donné, il faudrait bien que les députés du Congo central et certains autres apprennent à être un petit peu sérieux, à être un petit peu plus responsables, à savoir ce qu'ils disent et l'impact de ce qu'ils disent sur non seulement la communauté, mais également le pays, la visibilité du pays à l'extérieur. Mais je voudrais justement dire quelque chose de très simple. Vous savez, la province du Congo central, la population qui jouit des activités portuaires ne dépasse même pas 10%. Alors de quoi on parle? On doit être sérieux. C'est qu'il faut...
Même pas 10%.
Pour être sérieux avec vous, si nous désirons réellement parler du Congo central et de son développement, le Congo central a une vocation agro-industrielle. Elle a une vocation minière. Elle a une vocation énergétique extrêmement importante qui manque au monde entier. Je parle de Inga. Et donc, il est important qu'on se rende compte que si on désire sérieusement développer la République démocratique du Congo et si on désire développer la province du Congo central, il faut lui donner un plan stratégique de développement local. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Moanda et Banana en particulier ont fait l'objet d'énormément d'études. Il est grand temps qu'on passe à une passion de marché sérieuse.
Voilà, nous parlons aujourd'hui de l'impact économique de la construction du pont route Kinshasa-Brazzaville et du port de Banana. On a suivi les députés du Congo central sont montés au Congo, au créneau, ainsi que d'autres personnalités pour dire non, on ne peut pas, on doit d'abord s'occuper du port de Banana. Alors, quelles sont vos questions et réactions par rapport à ce sujet? Appelez-nous déjà au 081-890-63-94 pour participer à cette émission de La Vie au quotidien. Merci à tous les internautes qui ont déjà réagi sur la page Facebook de l'émission Capi Service Dieudonné KBA. à Kananga, au Kasaï Central, nous dit ceci. L'impact de la matérialisation de ces projets de port en eau profonde est très important et s'intéresse surtout au gouvernement congolais pour se renforcer. Cela intéresse surtout le gouvernement congolais pour être matérialisé, notamment avec les financements pour... est-ce qu'il y aura... Il faut savoir s'il y aura un financement entre les deux pays, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, pour ce port-là, à Kitenge. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Didone Kabea?
Comme je disais, cet ouvrage est un ouvrage international qui relie l'économie du nord de l'Afrique à l'économie du sud. Il est en grande partie financé par les mécanismes internationaux, en l'occurrence la BAD pour le compte de l'Union africaine. Mm-hmm. Et bien entendu, il y a une petite contribution de la part de la RDC et du Congo Congo-Brazzaville. Et ce qui du reste est logique. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et d'ailleurs, on pouvait avoir cet ouvrage construit essentiellement à 100% privé, si c'était voulu. C'est la volonté des deux pays à vouloir garder un certain contrôle sur les ouvrages qui leur a permis de pouvoir donner une contribution symbolique pour être en mesure de participer. Dans le monde entier, la plupart d'ouvrages importants sont simplement privés, en partenariat public-privé avec l'État.
Et quel serait l'impact économique de cet ouvrage?
L'impact économique de cet ouvrage, c'est d'abord de relier l'économie du nord de l'Afrique à l'économie du sud de l'Afrique. Pour nous, nous avons un point de transit avec tous les bénéfices nécessaires. Ça veut dire qu'en fait, nous aurons ici le dynamisme lié à l'économie du Nord et à l'économie du Sud. Nous devenons un point névralgique. Sans nous, personne ne peut se connecter. Je parle du Nord et du Sud.
Nous devenons
un vrai hub économique. Et oui. Je crois que ça changera la destinée sérieuse de notre pays.
Bien, on va accueillir deux auditeurs qui sont déjà en ligne. Pierrot Pagna nous appelle de Lubumbashi et Dieudonné est à Arou. Nous parlons de l'impact économique de la construction du pont route Kinshasa-Brazzaville et du port de Banana. Nous parlons des ports. Alors Pierrot Pagna de Lubumbashi, bonjour et quelle est votre préoccupation?
Bonjour Freddy, bonjour à l'invité Al Kitenge que je ne connais pas mais que j'ai sur les photos. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kassi et à tous.
Quelle est votre question, Pierrot? Quelle est votre question?
Oui, j'ai au moins trois questions que je voulais poser sur base de la thématique d'aujourd'hui.
Rapidement. Les autres attendent.
Oui. La première des choses, je voulais d'abord apprécier la thématique et j'ai dit que c'est un projet très, très bien louable du fait que. Quand une nation ne peut pas se développer seule. Mais nous avons quand même des conflits ici. Moi, ici, la mémoire ne me fait pas du mal. Parce qu'il y a parmi les nations qui ne partagent pas bien les amitiés avec les Congos. Moi, je peux citer aussi le Congo-Brazzaville qui avait tué mon frère.
Quelle est la question maintenant? Passez rapidement à la question parce que les autres attendent. Quelles sont les trois questions rapidement? Oui.
Les trois questions. La première question était de savoir, est-ce que c'est le temps de faire ce projet lorsque le président qui est là, qui est récemment élu, a d'abord le projet de faire d'abord du social, son projet primordial. Est-ce que c'est le temps de faire ces ponts? Et pendant que le peuple n'a pas encore vu le développement...
D'accord. La deuxième question. Oui, la deuxième question.
La première question.
Oui.
La deuxième question. Comme le Congo-Brazza nous a fait ce que nous connaissons, comment nous allons nous développer économiquement lorsque eux nous voient de gens qui ne sont pas sérieux au moment où nous sommes le pays le plus corrompu? Ça, c'est la deuxième question. Ils vont nous faciliter cet échange-là. Pendant que nous sommes le peuple le plus corrompu, est-ce qu'ils vont...
Bon, je ne sais pas d'où vous tenez ces informations, qu'on est le peuple le plus corrompu. Passons alors à la troisième question rapidement. Oui, passons à la troisième question.
Oui. Oui, la troisième question est de savoir. Si l'invité a dit que ceux-là qui se sortent du pont du port de Banana sont peut-être à moins de 10%. Alors, il sait qu'il y a des familles qui font nourrir et scolariser ses enfants à travers ces ports-là. Et si on construit les ponts de Kinshasa et au Congo-Brazza, comment maintenant la population qui est du côté de tous ces matériaux-là va vivre comment pendant que l'autonomie sera focalisée seulement sur ces ponts. Comment ces gens-là vont se réveiller? 10%, si on trouve les 10%, c'est une popularité qui est là. Comment
D'accord, merci, on a compris. Merci Pierrot, merci pour ces préoccupations. On va donner la parole à Dieudonné depuis Arou. Bonjour Dieudonné.
Oui, bonjour Radio Papi, c'est Dieudonné par le territoire d'Arou. Je sais que ce port a une vraie capitale dans la mesure où elle peut booster le développement économique de notre pays et permettre que notre économie soit un peu plus productive et puis diminuer la spéculation sur notre marché. Alors mes questions sont en de trois seulement. La première, est de savoir quel temps prendra ce projet, ça c'est la première. La deuxième, c'est de savoir qu'en est-il de main d'œuvre de ce projet et puis quels sont les objectifs qui sont visés par la LDC de Brazzaville pour ce projet et puis quel pourcentage est réservé aux nationaux qui vont devoir travailler là-bas.
Bien, merci Dieudonné depuis Arou. Monsieur Alkiteng, vous avez la parole.
Je commençais par Dieudonné qui a posé des questions très claires. Ce projet sera exécuté en 5 ans optimalement. On est censé le terminer. C'est un projet ce qu'on appelle déroulement intensif. La main d'œuvre, j'espère beaucoup que dans le cadre du local content et de la stratégie nationale de privilégier les entreprises locales, il y aura une participation sérieuse et ça devrait être l'une des choses que le président Tshisekedi devrait être en mesure d'obtenir auprès des développeurs du pont Routrail. Mm-hmm. Mais aussi, c'est que en termes de responsabilité entre la RDC et la République démocratique du Congo, chacun doit être en mesure de se donner.
Et la République du Congo.
Du Congo plutôt. Chacun doit être en mesure de se donner ses propres objectifs vis-à-vis de son développement. Mais je voudrais simplement dire, par exemple, que vous savez, nous avons aujourd'hui à peu près 3 cimenteries dans le Congo central qui sont en train de chômer, qui travaillent à moins de 15%. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, ces cimenteries avaient été construites avec l'idée en tête qu'on construirait Inga. Et malheureusement, Inga n'a toujours pas commencé. Et donc ça, c'est une vraie opportunité pour ces cimenteries pour être en mesure de pouvoir tourner à fond. Mais il faut savoir aussi que de l'autre côté, Dangote a installé une cimenterie qui travaille à 30%. Et donc, il va y avoir une compétition. Et donc, il faut que nous soyons prêts à pouvoir livrer du
ciment. À faire face à la compétition.
À la compétition au ciment de qualité. Et ça, c'est des choses qui se négocient.
Oui.
Revenons à notre ami du Pierrot. J'ai envie de lui dire, c'est vrai. Il y a eu des antécédents entre la République du Congo et nous. Il y en a eu entre nous et l'Angola, il y en a eu entre nous et le Rwanda, il y en a eu... Nous, j'ai l'impression qu'on a des problèmes avec tout le monde. Et dans tous les cas, nous sommes toujours les victimes. Oui. Il faut se poser la bonne question. Pourquoi ça se fait que c'est toujours nous qu'on chasse, ce n'est jamais nous qui chassons les autres? Nous sommes là dans un phénomène osmotique. Nous sommes l'économie la plus faible de la zone. Ce qui fait que nos enfants ont tendance à aller chercher
chez les voisins.
Chez les voisins, ouais. Y compris dans des métiers où il n'y a pas beaucoup d'honneur. Et du coup, la perception que les gens ont de nous, c'est que nos ambassadeurs dans ces pays sont ces gens désœuvrés qui arrivent dans la partie basse de la société et qui sont malheureusement victimes du mépris. Chaque fois qu'il y a des problèmes internes, on cherche des boucs émissaires et c'est malheureusement nous. On l'a vu avec l'Angola, on l'a vu avec le Congo, on l'a vu avec le Rwanda. Mais nous n'avons aucune capacité de déplacer les voisins. Ils seront toujours là.
Oui.
L'intelligence voudrait justement que nous partagions les intérêts, que nous partagions l'économie et le social, que nous partagions la capacité de travailler ensemble, de générer des richesses et de les partager. Et donc, au-delà des émotions, il va falloir que nos dirigeants aillent de l'avant et c'est peut-être la bonne manière de pouvoir réhabiliter la véritable image de la République démocratique du Congo en tant qu'opérateur économique extrêmement important. Il parle de la corruption et vous lui posez la question de savoir d'où il tire ça, mais il tire ça de Transparency International qui produit un rapport annuel qui montre clairement que notre pays caracole parmi les pays les plus corrompus au monde. Et lorsqu'on regarde les villes de la République démocratique du Congo, Kinshasa se trouve être malheureusement la ville la plus corrompue du pays. Et donc il a peut-être raison de s'inquiéter. Mais la bonne chose, c'est que la corruption, aujourd'hui, elle se fait entre les mains des décideurs. Et donc, moi, je pense que la responsabilité de surveiller la cité appartient aux citoyens. Il est important que nos organisations des droits de l'homme et les organismes des citoyens actifs, comme la Lucha, devraient se convertir en surveillant de la cité. La mission politique qu'ils s'étaient assignée est plus ou moins terminée, et donc maintenant, ils peuvent se mettre à la surveillance de la gouvernance. Ce sera un plus que nous pourrons avoir en termes de développement humain.
Oui.
Et les citoyens ne sont pas là pour se plaindre, ils sont là pour se prendre en charge. Parlant de Banana, je crois qu'il a une grosse confusion. Je n'ai pas dit que Banana fait vivre 10%, j'ai dit les activités portuaires dans le Congo central touchent moins de 10% de la population du Congo central. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie qui n'a absolument pas d'interaction directe avec les activités portuaires. Et je dis, pour développer le Congo central, nous avons un potentiel minier extrêmement important sur tout ce qui est phosphate, qui est inexploité. Nous avons le sable asphaltique qui est là, à Mavuma. Goma et qui n'est toujours pas exploité. Nous avons des réserves de terres extrêmement importantes. Nous avons eu, à l'époque coloniale, des exploitations agro-industrielles qui sont en arrêt. Mais en fait, à un moment donné, arrêtons notre paresse légendaire et donnons du bonheur à notre population. À côté de ça, je voudrais vous dire que le Congo central détient le gisement le plus important du monde en termes de potentiel hydroélectrique. Il n'existe nulle part au monde. Le plus grand, c'est les Trois Gorges en Chine. Il ne représente que 21 000. Sur place à Inga, nous avons 44 000 au moins. Mais écoutez les amis, nous devrions faire du lobbying pour que ce projet international ait lieu. Ça changera tout le visage du Congo central, mais surtout tout le visage de la République démocratique du Congo. Mais je voudrais simplement vous dire que même si jamais nous mettions des investissements à Inga, ce n'est viable que si nous avons un marché, et le marché n'est pas que national, il est international.
Alors Al, vous ne croyez pas du tout à ce contrat qui a été signé avec l'entreprise des Toubaï par rapport à ce port-là. Vous ne pensez pas que les travaux, rien ne va se faire.
Les opérateurs de Dubai Port World, eux-mêmes, ils sont extrêmement inquiets. C'est pour ça qu'ils ont retardé le début des travaux. Je pense qu'ils savaient très bien que le pouvoir changerait et qu'à un moment donné ou à un autre, on va devoir négocier. On a deux choix. Si on voudrait absolument travailler avec Dubai Port World, il va falloir remettre le contrat sur la table, commencer par le publier, que les gens sachent ce qu'il y a dedans, le négocier viablement pour que les intérêts de la République soient respectés.
C'est fait en toute transparence.
Oui. Si on veut vraiment travailler seulement avec Deep World. Mais je voudrais simplement vous rappeler ici qu'il ne s'agit pas du port en eau profonde seulement, parce que Deep World en question, ça ne concerne qu'une partie. Il s'agit d'un grand projet. Il est important qu'on le regarde de manière globale. Les estimations montrent clairement que le projet global sur Banana et tous les ouvrages qui viennent, c'est aux alentours de 3 à 4 milliards de dollars. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas travailler avec un seul opérateur. On doit travailler avec plusieurs opérateurs. Et j'en appelle encore là à quelque chose que je dis tous les jours depuis une dizaine d'années. On doit avoir un plan stratégique de développement national, mais on doit avoir également un plan stratégique de développement provincial.
D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, il est temps d'accueillir des auditeurs. Kachai nous appelle des Kanyoka. Jules Kazadine est à Lubumbashi. Kachai, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à notre analyste Al Kitenge.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Moi, Kachai, je suis parmi les citoyens congolais qui soutiennent la construction du pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville. Je suis vraiment ravi de ça. Mais je présente une inquiétude à monsieur l'analyste pour qu'à ce niveau, il peut répondre. C'est vrai que la construction du pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville va faciliter les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens au plus vite. Mais je voulais au moins demander, tellement que nous avons une économie extravertie, fortement extravertie, pourquoi aussi la RDC n'a pas souhaité que les services du Congo-Brazza soient mis à contribution pour la construction de ces ponts-là? Parce que c'est le Congo Kinshasa qui va dépenser beaucoup plus, alors que les services qui vont commencer...
Le projet est financé par la BAD, la Banque Africaine de Développement.
C'est financé par la BAD, mais c'est la BAD qui a financé. Mais on s'est appesanti beaucoup plus sur le Congo, parce que quand le président de la BAD est venu, il a donné 70 millions, nous avons écouté ça, mais il s'est appesanti beaucoup plus sur le Congo Kinshasa. Alors que quand on a donné l'argent, c'est le Congo qui va commencer à rembourser cet argent-là avec des intérêts. Et on va commencer à exploiter les minéraux, on va commencer à faire ceci et cela sur le Congo, parce qu'on a financé. Alors c'est pourquoi moi je voulais que tous les services de deux pays devraient être mis à contribution pour qu'au cas où la BAD va commencer à récupérer son argent, parce que la BAD ce n'est pas une aide humanitaire. La BAD va chercher à récupérer son argent d'une manière ou d'une autre.
D'accord.
C'est pourquoi je voulais demander à l'analyste, est-ce que les services aussi du Congo-Brazza sont mis à contribution pour la construction de ces ponts route rail entre Kinshasa et Brazzaville?
Merci. Quel est l'impact économique de la construction du pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville, et ainsi que la construction du port de Banana? Jules Kazadi, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, M. Jody, bonjour à notre invité.
Quelle est votre question par rapport à ce sujet? Oui.
Parce que moi, je ne maîtrise pas bien ce point-là. Je voulais juste apporter ma petite contribution. C'est une très bonne chose. Parce que le rapport. prochain sera entre les deux, il y aura de beaucoup d'avantages. Vous voyez, sur le plan commercial et tout, voilà, c'est une très bonne chose. Vous voyez, M. Jordi, il faut qu'on arrête l'esprit de la médiocrité, de la pauvreté, de la sorcellerie. Parce qu'ici, quand, je vous donne un petit exemple, ici, quand on voulait construire le gouvernorat, Lyon Katanga, il y avait des gens qui disaient quoi? Non, nous sommes habitués de faire notre ancien gouvernorat, notre ancien bâtiment qui nous ont laissé par M. Tendo, Chombe, le peuple. Donc,
il faut me mettre ça. D'accord. Merci Jules de Lubumbashi. On va donner la parole à Maître Abedi qui nous appelle de Kindu. Maître, bonjour.
Bonjour Jeudi, bonjour à l'invité, à tous les auteurs de Radio Kati.
Quelle est votre préoccupation par rapport à ce sujet?
Oui, je voudrais juste poser une ou deux questions à l'invité. D'abord, je voudrais savoir à la demande de qui ou à l'initiative de qui le projet de construction de ce pont a été posé. Donc, je voudrais savoir qui est l'initiateur de ce projet, justement, qui
D'accord.
a demandé l'initiative pour le projet.
Pour okay.
la question.
Mm-hmm.
Et deuxième question, M. Alkitenge, comme l'analyste politique, je respecte bien.
Économique.
Quels sont les enjeux économiques de ce pont. Vous avez vu que je crois que la RDC pose beaucoup d'inquiétudes à travers beaucoup d'auditeurs et beaucoup de gens qui suivent ce projet. Qu'est-ce que la RDC va gagner dans ce projet, aussi pour le moment, pour actuellement, si ça ne peut pas donner beaucoup d'avantages, qu'est-ce que le gouvernement congolais pourrait faire pour qu'il tire plus bénéfice de ce projet qui laisse couler beaucoup de salifs d'encre. Merci.
Merci Maître Abedi de Kindo. Monsieur Alkitenge, vous avez la parole.
Encore une fois, je vais commencer par Maître Abedi, je vais aller en sens inverse. L'initiative est de l'Union africaine, l'initiative est des organisations africaines conjointes qui gèrent les questions économiques. Ce projet a été commencé du temps du professeur Abdoulaye Wade et d'Obasanjo, qui à l'époque pilotait la cellule économique de l'Union africaine. Et en fait, le besoin est très simple, il a été exprimé de manière assez claire, c'est la jonction entre l'économie du nord de l'Afrique en partant de Tripoli, en arrivant jusqu'à l'Afrique centrale, en dépassant, en allant jusque à l'Afrique du Sud par les voies que nous sommes censés tracer. Et donc cette initiative nous dépasse en réalité. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le Congo-Brazzaville et nous, ce n'est pas nous qui avons
initié. C'est au niveau régional.
C'est au niveau africain complètement. Et donc les suspicions qu'il y a par rapport au port en eau profonde de Pointe-Noire sont complètement illégitimes. Il faut savoir que ça nous donne un marché qui va jusqu'au Cameroun, au Gabon et dans tous les autres pays, jusqu'au Maroc et pourquoi pas en Tunisie. Deuxième chose, les intérêts aujourd'hui, le premier intérêt à mon avis, c'est que ça nous remet en question. Ça nous montre clairement que l'Afrique commence à avoir un plan stratégique pour l'Afrique. Et ça nous pose, nous, la question de savoir quel est notre plan stratégique. Parce que je voudrais simplement vous dire que nous avons une mission géographique. Regardez où nous sommes situés. Nous avons une vocation géostratégique, nous avons une vocation géoéconomique et nous avons une vocation géopolitique. Il est important que nous ayons un plan par rapport à l'Afrique. Nous allons intégrer un plan global. Si nous n'avons pas un plan national, et oui. ça va être un véritable problème. Ça nous appelle à réfléchir ensemble, à décider de comment nous désirons vivre déjà à l'interne pour être en mesure d'interagir avec les autres. Les autres ne nous attendront pas. Il y a beaucoup de pays qui sont très fâchés contre nous parce que leur économie est en récession. Je vous cite l'Afrique du Sud et le Nigeria, pour commencer, et beaucoup d'autres pays, simplement parce que nous n'avons toujours pas été capables de développer le potentiel hydroélectrique qui est ici. Et nous nous étonnons que nous soyons en guerre avec tout le monde. Nous avons des solutions pour le continent, nous ne les donnons pas. Mais en donnant des solutions aux autres, nous gagnons de l'argent, nous développons notre personnel, nous développons la compétitivité de la nation. Et en développant la compétitivité de la nation, nous renforçons notre économie et donc notre social. Je ne vois pas comment on peut faire les choses autrement qu'en créant du travail. Tous les pays du monde se sont développés avec ce qu'on a appelé les grands travaux. Il est important que nous arrêtions notre paresse légendaire.
Donc, d'après vous, Alkitenge, les deux infrastructures vont contribuer au développement du pays.
Mais absolument.
Et qu'on ne devait pas dire qu'on arrête l'autre au profit de l'autre.
Personne. D'ailleurs, quand vous entendez les députés du Congo central, ils ne disent pas qu'il faut arrêter le pont Routra. Ils disent qu'il faut d'abord commencer.
Commencer.
Parce qu'en fait, ça fait des années qu'ils attendent et notre incompétence collective arrivent empêchent que cet ouvrage, parce qu'ils essaient d'utiliser ce levier pour obtenir l'accélération de ce travail. Et la réponse du chef de l'État est très technique, elle est très intelligente, mais elle est surtout politique. Il ne leur dit pas qu'il ne va pas signer, il dit qu'il ne va pas signer avant de lancer les travaux de port en eau profonde. Ça veut dire qu'en fait, il va simplement accélérer la mise en place de ce projet pour que les esprits s'apaisent. En même temps, il a déjà d'ailleurs signé pour le pont Routraille Kinshasa-Brazzaville, en tout cas au moins au niveau des accords de principe, et on va avancer. Et il est important qu'on dise la vérité à nos populations. Et donc, je voudrais encore insister sur le fait qu'il ne s'agit pas du pont en eau profonde. C'est tout un complexe d'infrastructures qu'on est censé mettre pour que cette partie de la République ait une vocation non pas nationale, mais internationale.
Voilà. Et les deux projets, comme vous l'avez dit, vont profiter au développement de notre pays. Il y a une autre question.
Oui, Jules qui a parlé de la pauvreté, de la médiocrité. Et bien sûr, dans tous les pays du monde, dans le monde entier, les gens sont soit conservateurs, soit progressistes. Et c'est normal que de temps en temps, il y ait un certain nombre de personnes qui résistent au changement. La chose, et c'est peut-être un appel important que je fais aux opérateurs politiques à tous les niveaux, il faut communiquer avec les gens. Il faut leur dire la vérité telle qu'elle se présente. Et il faut exprimer les réalités à temps pour que les gens se préparent aux changements qui vont arriver. Mais surtout, pour qu'ils voient les opportunités qu'il y a et qu'ils les saisissent. Par contre, M. Kachai a dit en termes d'échanges commerciaux, il fallait que la République démocratique du Congo et la République du Congo se partagent. Mais bien sûr, avant que le patron de l'Union africaine vienne ici, de la BAD ne vienne ici, il a séjourné un mois avant à Brazzaville, où il a obtenu les mêmes accords qu'il a obtenus avec le président Félix Tshisekedi ici. Et donc, il doit ne pas s'inquiéter. Les contributions des deux parties seront données, et il me semble d'ailleurs que le Congo-Brazzaville va en donner un peu plus. Et le reste n'est pas financé sur le dos de la République démocratique du Congo, c'est financé dans le cadre des budgets de l'Union africaine.
Bien, on va accueillir Marcel Didier Passois depuis Luisa au Kassai Central. Marcel, bonjour.
Bonjour Monsieur Dodi, bonjour également Monsieur Algui Tengue, l'analyste économique.
Quelle est votre question par rapport à l'impact économique de la construction du pont route Kinshasa-Brazzaville et du port de Banana?
Très bien, merci. Par rapport à la construction, les efforts de cette construction sont vraiment salutaires, mais je m'en vais juste poser la question à Monsieur Algui Tengue pour dire que ce pont va réellement faciliter les échanges commerciaux entre les différents pays, en commençant par le Congo-Brazza, mais parce que ces échanges constitueraient un rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, ma petite question que je pose à M. Algui Tengue, c'est de savoir, dans ces rendez-vous du donner et du recevoir, au regard de l'économie de la République démocratique du Congo, quelle va-t-elle présenter pour aussi bénéficier de ces échanges commerciaux? Quelle va-t-elle présenter à la place de d'autres pays en concurrence pour aussi émerger la RD Congo? Voilà ma petite question, M. Dupuy.
Bien, merci. Sur la page Facebook de l'émission, nous avons la réaction de l'apôtre Vincent Lushima qui dit que les deux projets valent la peine d'être exécutés et cela contribuera au développement de la RDC ainsi que de la région. Que gagnerait ou perdrait notre pays en omettant l'un de ces deux projets, Al Kitenge?
Je vais répondre au premier intervenant qui donne une contribution et il insiste sur le fait que ces deux ouvrages sont importants. Il demande ce que pourrait être notre apport dans le rendez-vous de données de recevoir. Bien. Nous avons une forêt qui n'est pas exploitée ni pour produire du papier, ni pour produire des meubles, ni pour produire des ouvrages quelconques. Je voudrais vous dire que la table sur laquelle vous et moi nous sommes assis, elle est faite en déchets de bois. C'est une honte pour notre pays d'importer du bois. Je voudrais encore vous dire que les tables de nos ministres, de nos députés, j'ai bien peur que la table du chef de l'État également soit en déchets de bois, simplement parce que c'est des biens qui viennent de Chine, qui sont beaux, mais qui ne représentent pas grand-chose, alors que nous sommes ici assis sur du bois de très bonne qualité. Autant, je pense que celui qui parle de l'extraversion de notre économie, nous devrions être en mesure d'arrêter d'importer n'importe quoi pour bâtir une véritable industrie localement ici, autant je pense qu'il est important que nous sachions que nous avons la capacité de fournir fournir des biens de qualité à base de bois à une grande partie de l'Afrique. Je voudrais vous rappeler ici que le Gabon, qui vient de terminer sa foire du bois, a la capacité de production du bois travaillé largement supérieure à la RDC et exporte à travers le monde entier. Et nous, la RDC, qui avons les réserves de bois que nous avons, nous n'avons même pas un plan quelconque de pouvoir traiter. Nous ne produisons même pas un mètre carré de bois, de papier. Nous ne produisons même pas des meubles que nous utilisons au quotidien, y compris pour nos propres élèves. Et ça, c'est un gros questionnement. La question de monsieur vaut la peine, c'est que nous devons être en mesure de nous réveiller pour commencer à nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons à mettre sur la place. Deuxième chose, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons sur le continent des pays qui sont désertiques, qui n'ont donc pas de nourriture. Nous avons donc la possibilité, avec les infrastructures,
de développer sérieusement l'agriculture,
non seulement des produits frais, mais des produits frais et transformés, stabilisés, pour qu'ils soient en mesure d'aller loin. Et nous avons donc le marché de l'Afrique du Nord, nous avons le marché de l'Afrique jusqu'à l'Afrique du Sud. Il est anormal que nous soyons ceux qui importent des jus, alors que nous avons 80 millions d'hectares, et quand nous importons du jus, nous importons des pays semi-désertiques. Donc, le questionnement ici, ce ne sont pas les autres, les questionnements, c'est nous-mêmes.
Voilà, les questionnements, c'est nous-mêmes. Et par rapport à l'apôtre Vincent qui dit que gagnerait ou perdrait notre pays en omettant un de ces projets,
Ce serait ridicule d'omettre un des deux projets, parce que si nous omettons celui de port de banana, ce serait ridicule parce que simplement nous allons rater l'opportunité de développer non seulement la province, mais également de développer des activités qui pourraient servir à consommer une grande partie de l'énergie. Vous savez, quand on a appelé le petit Inga 1 et 2 éléphant blanc, c'est simplement parce que nous étions incapables de consommer l'énergie. Nous avions fait un projet de production énergétique sans avoir fait un projet de consommation énergétique. Et il est donc important de se rendre compte que le développement du port de banana et de toutes les activités annexes serait une grande source de consommation de l'énergie que nous produisons localement, et c'est très important. Ça viabilise aussi une partie de la production énergétique locale. Mais également, ça donne une véritable vie à des êtres humains qui vivent en dessous des conditions de vie acceptables.
Et comment cela pourra améliorer les conditions de vie
Mais bien sûr, en créant l'activité économique. Je vous ai dit que la vocation du Congo central est agro-industrielle, elle est minière, et elle est agricole purement. Et je dis simplement que avec l'énergie, nous aurons la capacité de pouvoir travailler. Et si nous avons des activités dans le Congo central en ce qui concerne la construction du port en eau profonde et de la route et du rail, c'est énormément d'argent qui vont couler dans cette partie du pays, et donc qui va alimenter la province, qui va alimenter les petites sociétés qui vont travailler avec, et donc qui vont également renforcer la capacité de travail des gens, et j'espère beaucoup qu'il va attirer des gens des autres provinces pour qu'ils viennent découvrir cette partie du pays. La diversité étant une valeur importante.
D'accord, on va accueillir Sénèque de Kalemi. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'abord pour votre divertissement de votre invité, parce qu'il vient de détailler tout ce que je voulais dire.
D'accord, donc vous n'avez plus de questions.
Ok, merci. Ok, à la prochaine peut-être. Mais j'avais une petite contribution.
Allez-y rapidement.
Maintenant, je voulais demander à l'invité, parce que notre pays est expérience pour les problèmes de casse. Maintenant, comme si c'est la base qui vient de donner cette idée. Maintenant, comme là, il y a des frontières, on donne ceci, cela, comme de... Maintenant, alors notre gouvernement, qu'est-ce qu'il y a proposé à cela comme des taxes, comme des régimes, c'est un peu ça.
Merci. Alors, Kitemi, qu'est-ce que vous voulez lui dire?
Sa question est un peu bizarre, je ne la comprends pas très bien. La base finance, il y aura des entreprises qui vont travailler, il y a des entreprises du Congo-Brazzaville, des entreprises d'ici qui vont travailler, qui vont certainement payer des taxes, non seulement sur les
salaires. Il y aura peut-être des zones de libre-échange aussi.
Ce n'est pas
la circulation des...
Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Nous sommes là dans une gestion de la transversalité de la mobilité, et je crois que les taxes dont il voudrait parler, c'est de savoir si les entreprises qui vont travailler vont devoir payer des taxes. Je crois simplement...
Ou peut-être les utilisateurs, après les travaux, les utilisateurs de ces ponts.
Sa question est un peu ambiguë, je ne la comprends pas.
D'accord. Nous poursuivons cette émission. Nous parlons de l'impact économique de la construction du pont route Kinshasa-Brazzaville et du pont et du port de Banana. Sur la page Facebook de l'émission, Sylvain Mafola nous dit ceci. Le lien entre les deux capitales peut accroître l'économie du pays dans la mesure où la douane est perçue et réellement versée dans les trésors publics. Cependant, si cette construction peut être une barrière économique du simple fait que les intentions des financeurs et nos politiques congolais sont nocives. C'est Sylvain Mafola depuis Kikwit. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Sylvain?
Je pense que Sylvain s'inquiète raisonnablement. Tout le monde sait très bien que nous avions ici des industries textiles qui ont disparu, qui ont été rachetées par des entreprises chinoises pour les fermer, simplement parce qu'elles avaient comme ambition de nous noyer dans des produits chinois. Et malheureusement, une grande partie de ces produits viennent via Pointe-Noire et entrent en République démocratique du Congo par la fraude et sont étalés le long du fleuve pour être vendus au vu au sud de tout le monde. Et heureusement que une infrastructure comme celle-là va permettre d'avoir des postes frontaliers modernes où il sera très difficile de faire autant de bêtises que nous en faisons aujourd'hui. Je crois que même du côté douanier, il y aura certainement des allègements.
Voilà, il y aura certainement des allègements. On retient à Kitenge qu'il y aura un impact économique. Il y a des enjeux économiques importants.
Immédiat et à moyen et à long terme.
Par rapport à ces deux projets.
Oui.
Alors, la grande question de cette émission était de savoir, faut-il le faire simultanément ou on peut commencer par un autre et l'autre va suivre après.
Mais je ne vois même pas de lien entre les deux. Nous avons l'obligation de laisser le projet international se réaliser
calmement,
à son rythme, et le calendrier est déjà prévu.
On
n'a pas à les conditionner à quoi que ce soit.
Oui.
Maintenant, notre compétence interne doit faire en sorte que nous commencions le plus vite possible ce projet qui traîne depuis trop longtemps pour des raisons qui ne sont pas acceptables, parce que ça ne demande pas un effort financier de la République démocratique du Congo. Nous mettons en concession les espaces et le foncier, et les partenaires développent et exploitent. C'est de ça qu'il s'agit. Mmh. Et je souhaite encore une fois qu'on ne s'arrête pas du tout au port, qu'on aille dans le complexe de Banana tel qu'il a été conçu, ça veut dire le port, la grande cité, les zones spéciales, économiques spéciales, mais également la route et le rail qui amènent vers Kinshasa.
Et d'après vous, il faudrait peut-être carrément annuler ce contrat avec la firme DP World parce qu'il n'y a pas eu de transparence dans la passation des marchés et puis réouvrir le marché.
Ce serait l'idéal. Mon point de vue, c'est qu'il faut simplement le réviser de toute façon. Le réviser peut vouloir dire on l'arrête et on fait un appel d'offres restreint de manière transparente en disant au Congolais de quoi il s'agit. Le réviser, ce sera très sensible parce qu'il y a des composantes politiques.
Bien, merci Yann Kitenge. Je rappelle que vous êtes stratège et analyste économique. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'impact économique de la construction du pont route à Kinshasa-Brazzaville et du port de Banana. Bonne journée.
Je vous remercie.